Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, les curieux. Le mouvement des gilets jaunes, hein, c'est sans transition, comme on dit, Thomas. Mmh. Alors, il est né sur les réseaux sociaux, sans leader, sans structure officielle, et il incarne une forme de contestation inédite. Avec l'historienne, maître de conférence Mathilde Larrère, on s'intéresse à ce peuple qui parfois gronde et aux formes que ça prend, hein, avec l'histoire des manifestations. Alors, bonjour Mathilde Larrère.
Bonjour.
Tout de suite, on se penche sur l'actualité, ces gilets jaunes. On peut tenter de le décrire comment, ce mouvement, en fait? Parce qu'on entend beaucoup de parallèles, les jacqueries, les trucs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bah, ce que j'en pense, c'est que c'est difficile, effectivement, de le décrire parce qu'il est complètement polysémique. En fait, il rassemble des classes sociales différentes. Il s'étend sur le territoire, donc dans des territoires de nature différente, et il rassemble des gens de conscience politique différente. Donc, en fait, il est assez polysémique. Par contre, moi, je le qualifierais comme un mouvement de consommateurs, c'est-à-dire que ce qui rassemble tous ces gens-là, c'est la sensation de vie chère, de pouvoir d'achat en baisse, et donc d'injustice face à cette situation.
Parce qu'en fait, les manifestations qui ont émané les siècles, c'est aussi des manifestations de producteurs, c'est ça, d'ouvriers, de...
C'est-à-dire que ce qu'on connaît le plus, c'est les manifestations d'ouvriers, parce que le mouvement ouvrier est connu, documenté, et on en a fait l'histoire. Mais le mouvement ouvrier, c'est un mouvement effectivement de producteurs et de salariés qui demandent des hausses des salaires, alors que les mouvements de consommateurs ne vont pas demander de hausses des salaires parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ne sont pas salariés et ils demandent une baisse des prix ou des taxes qui font augmenter les prix.
Les gilets jaunes qui sont attendus, peut-être qui viennent d'arriver dans quelques minutes à Matignon, on vous tiendra au courant évidemment sur RTL. Et puis on va remonter le cours du temps et chercher des parallèles, forcément, Mathilde Larrère, notamment, tiens, on va remonter très loin, Moyen-Âge, 14e siècle, les gens crie. Est-ce qu'il y a des points communs? Vous verrez.
RTL.
J'ai voté Macron. Plus jamais je le ferai. Plus jamais.
Thomas Hugues.
Le peuple en a marre. Marre des taxes.
Anaïs Bouton.
C'est une véritable honte. C'est une grosse colère.
Vous appelez ça comment? Des gens qui retirent des pavés sur les Champs-Elysées, qui les balancent sur des gendarmes ou sur des policiers? Ce ne sont pas des gilets jaunes qui manifestaient, c'est la peste brune.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec Mathilde Larrère, maître de conférence et historienne, vous avez coordonné d'ailleurs l'ouvrage Révolution, édité chez Belin. On s'intéresse au peuple qui gronde, donc. Alors, on a beaucoup entendu parler le terme de jacquerie, lié au gilet jaune. Qu'est-ce que c'est une jacquerie?
Alors, qu'est-ce que c'est une jacquerie? Mais d'abord, puisqu'on en est sur les termes, moi, je dis pas que le peuple gronde. Parce qu'en fait, je trouve que ça le déconscientise, ça fait désarticuler, gronder, ça fait genre masse pas contente. En fait, il proteste, il se soulève.
Il revendique et qu'il proteste.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai que...
Plutôt comme dans une chanson de Jacques Dutronc.
Exactement, exactement.
Alors, les jacqueries.
Les jacqueries, c'est un nom générique par lequel on qualifie à peu près toutes les révoltes rurales de l'Ancien Régime, qui sont souvent des révoltes antifiscales, mais pas systématiquement. Donc, c'est un nom un peu générique. Et souvent, c'est utilisé pour les déconsidérer. Ça vient du terme Jacques Bonhomme, qui est une façon de se moquer des paysans. C'est un côté bouseux, Jacques Bonhomme. Non,
Jacques Bonhomme, c'était quelqu'un ou c'était une façon d'appeler les paysans?
C'est un personnage. En fait, c'est ça qui est drôle, parce qu'il y a un lien avec les gilets jaunes, c'est que le Jacques, c'est la veste des paysans. Donc, c'est comme ça que c'est venu Jacques Bonhomme. Et ensuite, à partir du 19e siècle, dès qu'on traite quelque chose de jacquerie, c'est une façon de dire que c'est archaïque, en fait. Parce que le mouvement moderne, c'est le mouvement ouvrier. Et donc, la jacquerie, c'est l'ancien monde qui se soulève. Donc, c'est aussi dépréciatif. C'est toujours dépréciatif, la jacquerie.
Et c'est d'abord fiscal? C'est contre de nouveaux impôts ou certains impôts qu'il y a ces révoltes?
Alors,
paysannes?
Pas toujours, mais souvent. Et par ailleurs, quand on regarde, les jacqueries de l'Ancien Régime sont souvent contre les impôts seigneuriaux et ecclésiatiques, qui posaient beaucoup plus de problèmes que les impôts royaux. Mais en général, et c'est là qu'il y a un lien avec ce qui se passe actuellement, les paysans se soulèvent contre les impôts quand, en fait, ceux qui les lèvent, que ce soit donc les seigneurs, les ecclésiastiques ou le roi, n'assurent pas des services en échange. Et on s'en rend compte, c'est quand l'Église, en fait, par exemple, cesse sa mission de cure des âmes, ou quand les seigneurs ne protègent plus les paysans. Et là, c'est pas du tout un hasard que ce soit quand justement les services publics quittent en fait tout un tas de petites villes et de villages, que l'impôt devient insupportable à ceux à qui il est imposé.
On veut bien payer l'impôt, mais on veut comprendre pourquoi et en voir un effet en retour. J'ai
voilà,
bien compris
c'est le propre du consentement à l'impôt. C'est-à-dire que
ça n'existait pas, le consentement à l'impôt au Moyen-Âge.
Alors, évidemment, ça n'existe pas au Moyen-Âge. Tout ça, c'est une nouveauté de la Révolution française, et c'est pour ça que c'est difficile de comparer les révoltes antifiscales du Moyen-Âge et de l'époque moderne avec celles de la Révolution. De même que, de toute façon, l'État, en fait, levait assez peu d'impôts, même déléguait la levée de l'impôt à la ferme générale, qui n'était pas un service d'État, mais c'était des nobles. Donc, la situation est très différente. Mais dans le cadre actuel, le consentement repose aussi sur le fait qu'en échange, il y a des services publics. Donc, si ces services publics disparaissent, baisse, l'impôt devient insupportable.
Alors on a aussi beaucoup entendu parler de comparaison avec les sans-culottes. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle a une pertinence, cette comparaison entre les gilets jaunes et les sans-culottes?
Alors comme toute comparaison, elle a ses éléments de pertinence et d'impertinence.
On parle de vêtements déjà.
Voilà. On désigne métoniquement par une pièce de vêtements sans-culottes. En fait, ça veut dire qu'ils ne portent pas le pantalon, enfin la culotte des nobles, et qu'ils ont donc un pantalon, parce que c'est ça que sans-culotte, il ne faut pas imaginer d'autres choses. Oui. Et là, les gilets jaunes, c'est une partie métonymique. C'est assez classique finalement de désigner de toute façon des mouvements par une partie métonymique du vêtement. Il y aura les bonnets rouges et quelque part les jaques, ça vient de là parce que c'était une veste. L'autre point commun, c'est que dans les deux cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des associations de consommateurs, enfin des associations pas au sens institutionnel, mais des regroupements de consommateurs. Les sans-culottes n'ont jamais demandé que la baisse du prix du pain et la baisse de tous les produits de première nécessité. Ce qui est finalement ce que l'on retrouve aussi chez les gilets jaunes, alors que le mouvement ouvrier demande l'augmentation salariale. Mais il y avait une plus grande homogénéité politique chez les sans-culottes, et qui plus est, ça prend part dans un mouvement révolutionnaire. Les sans-culottes n'apparaissent qu'en 91, on ne parle pas de sans-culottes au début de la Révolution française, et ils sont beaucoup plus unifiés dans leurs revendications politiques.
Mathilde Larrère, vous trouvez que ce mouvement des Gilets jaunes, finalement, il ressemble peut-être le plus à une contestation qui est certainement moins connue, en tout cas moi je ne la connaissais pas avant de préparer cette émission, l'été rouge, on est en 1841, c'est quoi ?
Ah oui, on est en 1841, et le pouvoir veut, comme très souvent le pouvoir, augmenter ses rentrées d'impôts, et pour ce faire, il peut jouer sur quatre, il a quatre impôts à disposition, et celui sur lequel il veut jouer, c'est un impôt qu'on a oublié, parce qu'il n'existe plus qu'est l'impôt sur les portes et fenêtres.
Et vous allez nous raconter dans un instant pourquoi cet impôt surprenant sur les portes et fenêtres a provoqué la colère, cet été rouge à venir sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
S'il vous plaît, pas de spectacle aujourd'hui, c'est une grève surprise, messieurs dames.
C'est une grève surprise.
Avec Anaïs Bouton.
C'est pas la peine d'essayer de lire si c'est écrit sur les tracts, il n'y a rien d'écrit, étant donné qu'au moment de les imprimer, les camarades étaient déjà en grève, hein, messieurs là.
Et Thomas Hugues.
Je vous signale qu'il y a un siècle à peine, vous n'aviez pas le droit de faire grève. Vous étiez bien emmerlés, tandis qu'aujourd'hui, vous avez le droit de faire grève.
Vous êtes encore plus emmerdés.
Voilà.
Sur RTL.
Eh oui, c'est Les Inconnus par François Touchard-Dilatouche, avec notre réalisateur.
Et notre réalisateur.
Avec l'historienne et maître de conférence Mathilde Larrère, on se penche sur ces périodes de l'histoire où le peuple proteste et manifeste. Et vous nous parliez de l'été 1841 parce que vous trouviez que c'est assez peu connu, cet été rouge, et que ça a quand même des petits rapports avec ce qu'on pourrait, avec les gilets jaunes maintenant.
Oui, alors, le rouge, jaune déjà. Donc c'est une réaction à, non pas un nouvel impôt, mais le souci de l'État de le lever avec un peu plus de sérieux. Vous avez dû vous promener déjà dans des villages, par exemple en Auvergne, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de portes et fenêtres quand vous vous promenez dans les rues. En fait, c'est parce que c'était imposé. Et donc, on construisait les portes et fenêtres à l'intérieur, dans les cours intérieures, pour qu'elles échappent à l'impôt. Et l'État, à ce moment-là, décide d'envoyer des employés des impôts pour aller à l'intérieur des cours et compter à l'intérieur les portes et fenêtres et faire mieux rentrer l'impôt. Ce qui va susciter une énorme protestation qui précipite, en fait, des colères diffuses. C'est pour ça que ça ressemble, parce que je pense que la question des gilets jaunes n'est pas que sur cette question de la taxe, mais précipite des colères qu'on voit bien dans les revendications.
Précipite dans le sens chimique du terme.
Dans le sens exactement chimique du terme, voilà. C'est-à-dire à la fois une crise économique latente, une crise politique, l'État monarchiste de la monarchie d'Huillet en 1841 et l'État actuel sont remis en cause, des désirs de démocratie plus directe, ou en tout cas de démocratie pour la monarchie d'Huillet. Il y a des fake news qui circulent à l'époque, comme il y en a qui en circulent maintenant. On dit par exemple que ces fameux employés des impôts ne vont pas se contenter de compter les portes et fenêtres, mais aussi les soutiens-gorge, les culottes, rentrer dans les maisons, donc dans l'intimité. Donc il y a cette espèce d'insupportable de la violation de l'intimité. Et donc, toutes ces colères, en fait, se précipitent sur une question particulière, mais qui exprime, en fait, la crise et le vieillissement.
Ça cristallise, c'est comme chez Stendhal, ça cristallise.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça prend un peu partout sur le territoire, avec des formes différentes, des répertoires d'actions différents. Et
ça sera réprimé.
Oui, c'est réprimé.
Et pendant qu'on raconte cette révolte fiscale, mais qui va au-delà de la fiscalité, on l'a bien compris, de 1841, l'actualité continue, puisqu'on attendait plusieurs gilets jaunes des porte-parole à Matignon. Finalement, il y en a un seul, Jason Herbert. Les autres sont refusés de venir parce que la rencontre avec Édouard Philippe et François Drugy n'est pas filmée. Voilà, c'est, ça tient à quoi une rencontre à Matignon. Mais ça pose, au-delà de ça, c'est pas une anecdote, la question du porte-parole ou du visage qui représente un mouvement, une manifestation, est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'un mouvement a besoin d'un visage emblématique, Mathilde Darrère?
Non.
Pas forcément.
Je pense pas, surtout qu'en plus se pose toujours la question de la représentativité, à la fois d'abord politique, quels sont les modes qui lui ont permis à ce porte-parole ou cette porte-parole, ça pourrait être une femme,
Bien sûr, malgré tout,
dans quel cadre il a été choisi, par qui, souvent en fait, c'est des modes de désignation qui sont extérieurs, ils sont identifiés comme interlocuteurs causables, soit par le pouvoir, soit par le média. Et puis d'autre part, se pose aussi la question de la représentativité sociale ou un mouvement qui est justement donc assez mixte et représenté que par des hommes, des mouvements qui vont être socialement très mélangés sont représentés par certaines classes sociales, donc c'est toujours assez difficile. En même temps, il y a bien des moments où il faut dialoguer et donc il faut trouver des formes de représentation.
Il y a des gens qui ont émergé comme ça, comme Danny Cohn-Bendit en 68, tout d'un coup il n'avait pas vraiment de légitimité en fait, vous dites.
Bah, c'est-à-dire qu'il se l'a construit aussi par la place qu'il prend, et ça, il y a des formes charismatiques de pouvoir dans ces cas-là. Sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle, on a moins ces formes-là parce que ceux qui vont être plutôt les intellectuels ou les penseurs des mouvements ne sont pas dans la rue avec eux. Donc il y a une différence plus nette entre ce qui se passe sur le terrain, dans la rue, et les gens avec qui on va se discuter.
La première grande manif en France, c'est la manifestation Ferrer en 1909, c'est ça ?
Alors, c'est la première manifestation autorisée. Donc, on considère que c'est la naissance de la manifestation, parce qu'il y a des pré-manifestations avant. Mais en 1909, en fait, il y a deux manifestations. D'abord, le 13 octobre, où c'est une manifestation de type ancienne, c'est-à-dire qu'elle a du mal à sortir du ventre de sa mère l'émeute. Hein. Elle est toujours... Il y a des grilles arrachées, les forces de l'ordre chargent, on relève un mort et quelques blessés. Bon, ça, c'est une forme de manifestation ancienne. Et en fait, les autorités, notamment les socialistes et l'humanité, vont se rendre auprès de la préfecture de police et négocier pour la première fois un parcours, une sécurisation du parcours, un service d'ordre. Et cette manifestation va se redérouler donc le 17 octobre dans ce cadre sécurisé et négocié et va bien se dérouler. Donc on dit que c'est la première manifestation moderne parce qu'elle est pacifiée.
Et quelle a été la plus grande manifestation en France? On vous dit ça dans un court instant, les curieux.
S'il vous plaît.
Oui.
Pas content.
Thomas Hugues. Anaïs Bouton.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
La curiosité est un vilain défaut.
Pas content.
Sur RTL.
Motivé.
Ah oui, ça c'est un hymne de manif, hein, motivé. Oui, alors avec Mathilde Larère, on revient sur les grands moments de la contestation en France. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ces images qui nous restent des grandes manifs en France? Quelles ont été les plus grandes manifs, en fait? Il y a eu le CPE, il y a eu à la fin du XXe siècle.
Alors, à la fin du XXe siècle, oui, le CPE, les retraites. Là, on a des... Surtout, enfin, il y a aussi les énormes manifestations à Paris, quand l'appel est à monter à Paris, et donc ça fait des cortèges énormes. Mais il y a aussi des moments où on appelle à manifester dans toutes les villes, et donc il faut additionner les différents cortèges.
On peut répondre à la question, quelle fut la plus grande manif en France, ou
non.
C'est quasiment impossible?
C'est très difficile puisque de toute façon la question des comptages est pour le moins soumise à la question. Oui. Pendant très longtemps il y a eu une guerre des chiffres entre la police et les organisateurs, chacun d'ailleurs tirant d'un côté, en gros il fallait tirer au milieu pour savoir un petit peu ce qu'il y avait. Il y a toute une période où on n'en sait rien puisque de toute façon il n'y avait pas de comptage. Alors maintenant avec le nouvel organisme là qui rassemble des médias, qui permet, mais semble-t-il, d'avoir des comptages
un peu plus fiables.
Et puis surtout, c'est pas la taille de la manif, c'est pas forcément le plus important. On peut avoir des manifs qui sont moins nombreuses, mais qui n'en sont pas moins importantes parce qu'elles signifient de nouveau par les slogans qu'elles vont porter et par leurs effets.
Justement, alors il y a une typologie de la manifestation de gauche et de droite.
Oui.
Hein, ils fréquentent pas les mêmes quartiers et ils se battent pas sur les mêmes sujets.
Non. Hein, alors qu'ils se battent pas sur les mêmes sujets, c'est normal. Parce que
mais
c'est
à Paris, par exemple, la gauche manifeste où?
Alors ils se partagent l'espace. Et ce partage, il date d'il y a longtemps, mais il s'est fixé dans les années 20 et 30. En gros, les manifestations de gauche, on les connaît, enfin en tout cas je les connais, pour les faire, c'est Bastille-République-Nation, ce triangle d'or de la manifestation qui insère la manifestation au cœur par ailleurs de quartiers plus populaires, qui relient des places qui sont toutes très connotées d'un héritage de gauche, Bastille, la prise de la Bastille, République, on comprend, Nation avec le triomphe de la République et une statue de la République radicale. Alors qu'en revanche, la droite se choisit un espace, d'ailleurs, dans des quartiers beaucoup plus huppés. Donc c'est soit ce qu'on appelle l'axe patriotique, qui est les Champs-Élysées, qui est un espace classique de manifestation de droite, manifestation en 68 en soutien de Gaulle, général, par exemple, voilà. Ou pour plus l'extrême droite, autour de la statue Place des Pyramides, qui reste le lieu de la manifestation de ce que l'on appelle maintenant donc, le Rassemblement National, mais qui était le lieu des ligues d'extrême droite, avec parfois la rue de Rivoli jusqu'à la Concorde. Donc là, on a ces espaces de manifestation de droite, chacun pouvant parfois s'inviter dans l'autre quand il s'agit de braconner un petit peu les terres de l'opposant politique.
Eh ben merci beaucoup Mathilde Larrère. On a beaucoup aimé votre livre, on a appris plein de choses ravie. Dans ce livre Révolution que vous avez coordonné et qui est publié chez Belin.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.